Bonjour à tous. Ce matin, je souhaite partager un verset sur lequel ensuite nous nous attarderons, nous essaierons de voir ce qui est contenu comme message de la part du Seigneur. C'est un verset, je suis certain que vous connaissez par cœur, d'un psaume qui est certainement sur 150 psaumes, le psaume le plus connu. Et ce verset, c'est le psaume 23 et le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je le redis. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le psaume de David, le psaume 23, est certainement le psaume le plus connu. Je me rappelle que quand j'avais 12 ans, mon papa était un téléspectateur, parce qu'on n'allait jamais au cinéma, je ne suis jamais allé au cinéma avec mon papa, mais un téléspectateur féru des westerns. Et un de mes premiers souvenirs de lecture de la Bible, c'est une caravane de cow-boys qui était dans le soleil couchant, un des protagonistes était mort, et puis tous les membres de la caravane étaient autour d'une tombe, et là, il y avait John Wayne qui récitait le psaume 23. Alors, quand John Wayne récite le psaume 23, on l'écoute. C'est la première fois que j'entendais ce psaume. Je devais avoir peut-être 11, 12 ans. Et ensuite, quand je suis venu au Seigneur, ça a été un des psaumes, comme pour beaucoup d'entre vous, qui ont marqué ma vie. Et puis, quand j'étais au collège biblique, je me suis rendu compte que ce psaume 23, qui commence par ces paroles « L'Éternel est mon berger », ne peut pas être prononcé sans que nous lisions le psaume 22. Parce que le psaume 22 est une proclamation, toujours de David, de ce sauveur qui vient, qui est à venir pour lui. Et c'est une description de la crucifixion, d'une manière tellement précise. Une description où celui qui est accroché sur la croix dit ceci: « Sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'environnent, des taureaux de Bazan, c'est-à-dire des adversaires m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Entendre ces paroles de David. Entendre cette pensée du Christ accroché à la croix. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'entourent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Le psaume 22 commence par ces paroles prononcées par Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a pas d'un éternel qui serait mon berger s'il n'y a pas dans ma vie d'abord l'œuvre de la croix qui est reçue, acceptée et vécue. Il n'y a pas, et je le dis fermement, de berger s'il n'y a pas le Christ, porteur de mes péchés, qui se donne sur la croix et qui meurt pour moi. Il y a quelques jours, j'ai écouté un débat entre un musulman, un imam, un rabbin et un prêtre. chacun proclamant que nous avons le même Dieu et qu'en toutes choses sont égales. Que nous soyons musulmans, juifs ou chrétiens, le salut et le Dieu et l'accès à Dieu est le même pour tous. Je suis profondément œcuménique, mais je suis aussi profondément convaincu que la parole nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule victoire sur le péché, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y en a pas d'autre. Et par souci ou volonté d'unité, effacer cela en disant « l'accès à Dieu est le même, nous avons le même Dieu ». Sans que nous passions par Jésus-Christ, c'est un leurre. Et nous avons à être fermes dans cette assurance. Il est le seul chemin, la seule voie pour l'homme pour se réconcilier avec le Père, pour vivre d'une vie nouvelle. Et nous souhaitons que tout homme, qu'il soit musulman, juif, ou athée, ou agnostique, ou toute autre forme de croyance, puisse découvrir ce chemin. Tant d'hommes et de femmes ont donné leur vie en tant que témoins pour que Jésus-Christ soit proclamé comme seul sauveur et seul Seigneur. Ah, c'est un discours rigoriste, limité, enfermant, mais je crois que la parole de Dieu nous dit c'est le chemin du salut. Et c'est la parole du salut. Sous prétexte d'avoir un discours unitaire, nous risquons d'avoir un discours lénifiant et qui égare. L'Éternel est mon berger, si le psaume 22 est aussi une réalité pour moi. Et en lisant ce psaume, j'avais le désir de m'arrêter non pas sur l'ensemble du psaume, je me disais qu'il serait bon peut-être d'avoir un samedi d'enseignement uniquement sur le psaume 23. Et je me dis que ça serait peut-être bien de le faire à plusieurs voix. Je lance l'idée à ceux qui ont envie de travailler la parole de Dieu ou qui le font déjà. Je me dis qu'une après-midi, vous voyez comme on le fait d'enseignement, sur le psaume 23 à plusieurs voix, ce serait intéressant. Voilà, je laisse l'idée mûrir. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alors c'est vrai que le psaume 23 commence par une proclamation qui nous fait du bien. L'Éternel est mon berger. Je l'ai découvert à la croix, il a vaincu la mort, il m'a fait rentrer dans la vie éternelle et il est devenu mon berger. Et l'image du berger va rester là, présente tout au long de ce psaume. Il me fait reposer, il me dirige près des eaux paisibles. Et le psaume 23, et pour moi, le psaume 23 et le verset 3, est un verset qui me parle particulièrement. Dieu veut restaurer mon âme. En bon français, au début, quand j'étais jeune, il veut restaurer, donc il veut me nourrir. Moi, je trouvais ça intéressant. Un Dieu qui veut me nourrir. C'est une autre manière d'interpréter le mot restaurer. Se mettre à table. Il en est question dans ce psaume. Je me suis dit, c'est cohérent. Et après, j'ai compris que quand il parlait de restaurer mon âme, c'est de guérir, de réparer. Et dans le terme hébreu qui est utilisé, c'est la racine « shuv », c'est-à-dire que si on devait traduire de manière plus explicite ce verset, ça ne serait pas « restaurer », il fait « revenir mon âme ». D'ailleurs, la Septante utilise le verbe qui va correspondre à cette notion de « restaurer », c'est-à-dire de se convertir. Il fait revenir mon âme. Revenir à quoi ? Il fait revenir mon âme, mon être intérieur, vers ce qu'il y a de meilleur. J'ai envie de dire vers les plans qu'il a pour ma vie. L'Éternel est mon berger et il veut faire revenir mon âme. Restaurer mon âme. Revenir. C'est un terme, la notion de shuv qu'on retrouve beaucoup dans le livre de Ruth qu'on a évoqué dernièrement, le fait de revenir. De revenir vers ce qui est le plan initial de Dieu pour chacune de nos vies. Oh, nous avons emprunté des chemins parfois détournés, nous avons entendu les témoignages. Merci pour ceux, pour celles qui se sont levées et qui ont parlé de comment ils sont revenus. Comment les chemins qu'ils avaient empruntés, on a entendu parler de l'ésotérisme, l'occultisme. Ce sont des chemins qui étaient des chemins de recherche, là aussi, de quelque chose qui avait du sens, qui donnait du sens à la vie. Abiba a aussi parlé de la tradition en Afrique, dans certaines cultures, dans certaines régions, où voilà, il y a des choses qui sont présentes. Daniel a parlé de la manière dont on peut s'égarer dans la violence, le désordre, pour essayer d'exister. Et comment le Saint-Esprit, à un moment donné, accueillit ces trois personnes dans leur parcours de vie pour les faire revenir. Revenir à quoi ? À quoi est-ce que Dieu veut nous faire revenir ? Au plan qu'il a toujours eu pour chacun d'entre nous et qui ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu a fait en créant Mélissa, et quand il l'a eu dans sa pensée de toute éternité, il n'a pas pensé, tiens, je vais faire Mélissa sur le même modèle qu'Abiba. Et puis Abiba, je vais la faire sur le même modèle que Daniel. Non, non. De toute éternité, chacun de ceux qui ont témoigné ce matin ont témoigné que Dieu les a amenés à revenir vers la pensée que Dieu avait pour eux. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il fait revenir mon âme. C'est une notion, le fait de revenir, qui se trouve dans l'Ancien Testament de manière très présente, aussi bien pour les individus que pour le peuple d'Israël. Le Seigneur parle à Israël en disant « Je ramènerai », c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, verset 27, « Je ramènerai Israël dans sa demeure, il aura ses pâturages du Carmel et du Bazan, et son âme se rassasira sur la montagne d'Éphraïm et de Galaad. Je ramènerai. » Et lorsqu'il parle d'Israël dans ce texte-là, alors qu'Israël est, je dirais, séparé des plans de Dieu, s'est égaré dans d'autres chemins, l'image d'Israël est une image pertinente pour chacun d'entre nous. Nous sommes, nous aussi, comme Israël, parti en dehors des plans et de la pensée que Dieu pouvait avoir pour nous. C'est une belle image que celle d'Israël. Et je crois que Dieu a aussi pour Israël, comme on l'a entendu avec Jean-Marc Tobois, le désir de ramener Israël dans ce qu'il y a de meilleur, dans ses plans. Il le dit ici, « Je ramènerai Israël dans sa demeure. » Lorsque nous lisons « Il restaure mon âme », cela signifie que Dieu veut nous ramener à la bonne place dans notre vie, dans notre maison. Nous habitions ailleurs, nous étions partis comme des étrangers dans le désert. C'était cela la situation d'Israël. Ils étaient partis au loin, en dehors de leur terre. J'imagine toujours pour moi que ce qui est vrai pour Israël, dans le sens où leur terre est l'espace qu'ils doivent occuper, est vrai aussi pour nous en ce qui concerne notre vie. Nous avons à occuper le terrain de notre vie. Est-ce que Dieu veut, et est-ce que tu entends ce matin, que Dieu veut restaurer ton âme, c'est-à-dire te faire revenir dans ta vie, là où c'est la bonne place, là où Dieu veut te bénir. Il est dit dans ce passage d'Ésaïe, je vais le faire revenir Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bazan. C'est-à-dire, il va venir occuper à nouveau les terres qui sont bonne pour le peuple d'Israël. Il y a un plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie, où Dieu te dit, je veux te faire revenir dans ta maison. Je veux que tu occupes à nouveau la terre, l'espace, l'espérance que j'ai pour toi. Dans le serviteur dont il est question au chapitre 49 d'Ésaïe, il est écrit ceci, « Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux du Seigneur et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les restes d'Israël. » Ramener, le Messie est appelé à ramener ce qui a été dispersé. Oh, ma vie a pu être dispersée. Peut-être que tu la regardes aujourd'hui encore comme une vie éparpillée. Peut-être que même si tu as vécu le psaume 22 avec la rencontre du Christ Sauveur, il y a des domaines de ta vie qui te semblent aujourd'hui encore un petit peu éparpillés. Le plan de Dieu, c'est de ramener, de recouper tout ce que tu es dans son plan de salut et d'accomplir sa volonté dans ton existence. Le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël. La volonté, le plan de Dieu en Christ, c'est de ramener dans notre vie tout ce qui est le plan de Dieu pour nous. Dans la Septante, c'est le terme revenir, se tourner, se convertir, qui traduit ce verbe du psaume 23. On le retrouve ailleurs. Rappelez-vous cette parole de Pierre, l'apôtre Pierre, qui reprend cette pensée de ce verset du psaume 23 et qui dit ceci, « Maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Vous vous êtes tournés, se convertir. Nous sommes revenus. Alors cette œuvre de conversion, de retourner nos âmes à nouveau vers Dieu, c'est une œuvre, j'ai envie de dire, commune entre Dieu et l'homme. Elle ne peut pas se faire que d'un seul côté. Pour se tourner à nouveau, pour laisser l'œuvre de restauration de notre âme, il y a la part de Dieu. Et il a fait sa part que nous voyons dans le psaume 22, mais il y a aussi la part de l'homme qui dit « Je veux, j'accepte, je désire que mon âme soit restaurée. Je veux que la guérison touche mon cœur et ma vie. » Est-ce que tu veux que Dieu restaure ton âme aujourd'hui? Est-ce que je le veux maintenant? Oh, mais moi je suis presque parfait. Ai-je encore besoin que Dieu restaure mon âme? Il est triste, certainement pour le Père, que les croyants ne soient pas dans une œuvre de changement et de transformation permanente. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que l'œuvre de changement s'accomplisse. Je me pose la question, si nous nous interrogeons suffisamment en nous posant cette question à nous-mêmes. Quel changement est nécessaire dans ma vie maintenant? Si nous nous posons cette question, alors nous donnons l'opportunité. Nous commençons un chemin avec Dieu où nous pouvons lui laisser accomplir des miracles, des changements et des transformations. Mais le fait de ne pas se poser la question, c'est d'être un petit peu comme ce peuple d'Israël qui tournait dans le désert en rond et qui vivait chaque matin semblable à chaque matin. Chérie, sors, la manne est tombée. J'ai dit chéri, parce que c'est l'homme qui allait chercher la manne, non ? Qui allait faire les courses. Il en est parfois des chrétiens d'aujourd'hui comme de ce cercle permanent de non-changement. Or Dieu, ce qu'il désire profondément, c'est restaurer mon âme, mon être intérieur, mes émotions, mes ressentis, mes motivations. Dans la présentation de l'homme dans la Bible, on voit bien cette présentation de l'homme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans le judaïsme, il y avait 5 niveaux pour parler de l'âme. Mais le niveau qui est mentionné ici, Nefesh, eh bien c'est le niveau à la fois des émotions, des ressentis, mais de tout ce qui me met en action. Est-ce que mon âme, tout ce que je suis intérieurement, mon être, ce qui fait que je suis ce que je suis, est-ce que je veux laisser Dieu guérir et restaurer, faire revenir à lui? Alors pas dans quelque chose qui m'est étranger. Il veut pas. Il s'agit pas de revenir à Dieu en disant bon, ce que tu veux pour moi, l'idée que tu te fais de moi, vas-y, accomplis-la. Non, c'est ce que je suis profondément et qui a besoin d'être purifié, mis en lumière, sanctifié. Dieu veut pas faire de moi une deuxième Mélissa, deuxième Patricia, deuxième Michel. Non, il veut que je devienne, que je retourne pour devenir ce que je suis en lui. C'est là l'œuvre de restauration. Il veut me faire revenir à ce dont je me suis écarté, éloigné. C'est l'être que je suis dans le cœur de Dieu. Et que le péché, mes choix, mes manières d'être, de faire, ont mis de la distance avec cela. Est-ce que je veux revenir à ce que je suis en Dieu? Découvrir. Alors ça veut dire effectivement, Seigneur, où sont les changements à opérer? De quoi je dois me séparer pour revenir dans ma vie, dans tel ou tel domaine? Est-ce que je peux prendre l'engagement avec Dieu de laisser son Saint-Esprit me parler, agir en moi pour me montrer ce qui doit être transformé? Il restaure, il ramène mon âme vers la pensée de Dieu, vers ce que je suis profondément. Si nous sommes dans cette démarche de changement où on dit Seigneur, vas-y, ramène-moi vers ce que je suis. Ramène-moi vers ce que je suis. Alors nous pouvons avoir des surprises. Un Saül de Tarse persécutant l'Église peut devenir un des plus grands apôtres de l'Église. Un Pierre bouillonnant de colère, impétueux, quelques années après sa mort sera surnommé l'apôtre de l'amour. Je crois que ce n'est pas Polycarpe qui parle de lui comme cela. Comment ces hommes ont-ils pu à un moment donné dire « Restaure mon âme, fais revenir mon âme vers ce que je dois, je suis et je dois devenir. Va, vie et deviens », comme le dit le titre d'un de ces films. Il restaure mon âme, il me conduit. Il restaure mon âme et il me conduit. Alors, le verbe qu'on a ici, c'est naha en hébreu, c'est plus mener. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent entre il me conduit et il me mène. Mais conduire, on s'assoit dans la voiture, c'est blablacar. Qu'est-ce qu'il y a comme chrétien blablacar? Non, vous n'avez pas l'impression? C'est-à-dire, il s'assoit, puis c'est juste, vas-y, conduis, dirige-moi, emmène-moi. Hein? Ici, c'est plus le Seigneur qui veut me mener. Mène-moi dans les sentiers de la justice. Mener, ça vient du mot main, me semble-t-il. Moi, j'aime bien. Quand je me suis marié, il y avait une chose que, quand je me suis fiancé, avant de me marier, il y avait une chose qui, je vais rarement parler avec ma femme, mais une chose que j'espérais et dont j'avais envie, c'est d'avoir quelqu'un qui me tienne la main. C'était important pour moi, parce que, étant enfant, je n'ai pas eu des parents très affectueux. Je racontais, je ne sais plus, à un membre de l'église ici, aussi avec Christiane, je crois. Ma maman, un jour, était vraiment pas affectueuse. Ce n'était pas la femme qui démontrait son affection, même à ses enfants. J'étais l'aîné, et puis c'était toujours, soit avec une bonne taloche, une manière de dire « je t'aime ». Donc j'évitais qu'elle me dise « je t'aime » trop souvent. Et je me rappelle, j'avais peut-être 11 ans, et ma mère, on était en cité HLM, et ma maman en disant « est-ce que quelqu'un voudrait venir faire au marché avec moi pour faire les achats ?» tout. Puis personne, tout le monde se défilait évidemment. Pas très joyeux d'aller faire le marché avec notre mère. Puis moi j'ai dit « bon écoute, j'y vais avec toi ». Et puis on est allé au marché, et puis je tenais le sac, tout, à 11 ans, avec ma mère qui était toute contente que je l'accompagne. Et puis, dans le marché, elle dit « ah, il faut que je m'achète des chaussons, parce que j'ai plus de chaussons, donc il faut que je m'achète des chaussons ». Alors elle me dit « est-ce que tu peux me donner ton idée, ton avis ?» Elle me fait me montre des chaussons, des charentaises, des sandales, etc. Et puis, il y avait une paire que je trouvais très jolie et originale, c'était une semelle en bois avec des caoutchoucs en dessous et une sangle en cuir au-dessus. Je dis, ça, c'est original. Et puis, ça a l'air d'être assez confortable. Je dis, ça serait bien. Alors, regarde, bah d'accord, on achète ça. Et le lendemain, elle a mis ses chaussons, c'était dimanche. Elle a mis ses fameuses sandales en bois. Et moi, je jouais avec mon frère Sylvain. Et j'étais à quatre pattes, il faisait du cheval sur mon dos, tout. Et à un moment donné, je décide de passer sous la table de la salle à manger. Et je n'avais pas vu que mon frère, mon petit frère, qui était il avait à peine un an, s'est agrippé à la nappe. Moi, j'ai avancé. La nappe est venue avec. Et il y avait la magnifique plante. On appelle ça une goutte de sang. C'était, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ma mère était fan de cette plante-là. Qui s'est rapproché comme ça, sensiblement du bord. Et à un moment donné, j'arrivais à l'autre bout de la table en dessous, et la goutte de sang est tombée par terre dans un fracas effroyable. Ma mère est arrivée, en colère, jugeant que j'étais responsable. Elle a enlevé sa sandale avec son semelle en bois que j'avais choisie la veille, et elle m'a donné un coup sur la tête qui a fendu le talon. Et là, je me suis dit, c'était une mauvaise idée le choix de cette sandale. Hein ? Est-ce que nous sommes, nous aussi, dans cette relation d'être menés en confiance ou d'avoir peur de celui qui nous mène, en nous-mêmes ou autour de nous? Moi, quand je me suis fiancé, ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai senti pour la première fois la main de ma fiancée dans la mienne. Tout à coup, ça m'a fait du bien parce que ça m'a rassuré, ça m'a parlé de l'amour, du lien qu'il y avait entre nous. Je n'avais pas l'habitude. Je n'ai jamais offert de sandales en bois à ma femme, mais on ne sait jamais. Mais sa main dans la mienne. Et aujourd'hui encore, si on est sorti cette semaine, elle a l'habitude de prendre... Ah, c'est quand on est sorti du restaurant ce dimanche dernier. Elle met son bras sous le mien. Et ça me fait tellement bien. Il me mène. Est-ce que je sens? Est-ce que je désire que la main de Christ soit dans la mienne pour me conduire? Ce n'est pas une main d'autorité. On présente le Seigneur comme celui qui a toute autorité, et il l'a. Mais il est aussi celui qui me mène, c'est-à-dire qui veut prendre ma main et me conduire dans la douceur et par la douceur de son amour. Il n'est pas là en train de me tirer par le bras en me disant « tourne à gauche, va à droite, avance tout droit ». Non, il me prend, il me mène dans les sentiers de la justice. C'est une main secourable, c'est une main de douceur. Mais est-ce que je la souhaite? Est-ce que je la désire? Si ma femme, dans un geste d'amour, me donnait sa main et puis je disais « Oh non, attends, laisse-moi, je voudrais être les deux mains dans les poches, tu sais, j'ai plus chaud comme ça », je suis sûr que ça lui ferait quelque chose.
Pourquoi le faisons-nous avec le Seigneur? Pourquoi refusons-nous régulièrement qu'il prenne notre main et qu'il nous conduise?
Le verset dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Les sentiers de la justice, c'est des sentiers qui sont ceux que Dieu pose devant nous en disant « Voilà là où je veux te voir marcher ». J'ai encore d'autres brebis, dit Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 16, qui ne sont pas dans cet enclos, je dois aussi les mener. Elles écouteront ma voix, elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Mais ce qui est triste, c'est quand dans le troupeau, il y a des brebis qui sont dans l'enclos avec le berger et puis qui décident de leur côté de sortir des sentiers de la justice. La notion d'être mené est régulière et on le retrouve aussi avec Israël. Dans Exode chapitre 13, Pharaon laissa aller le peuple. Dieu ne le mena pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Il y a toute une stratégie, vous savez, Dieu nous mène. Là, ici, il est dit que Dieu ne le mena pas par le chemin des Philistins. C'était le plus court. Ah, qu'est-ce qu'on aime les raccourcis, hein ? Non ? Dans nos vies. C'est tellement plus simple de choisir des raccourcis. Et parfois, Dieu nous fait faire des détours. Et on se dit, mais pourquoi ? Ce serait tellement rapide pour que ma vie avance, que j'aille dans ce sens. Pharaon laissa aller le peuple et Dieu ne le mena pas par le pays des Philistins. Parce qu'il y avait du danger, parce que là, il y avait des risques à ce que le peuple ait peur et des craintes, et puis finalement se retrouve en difficulté. Parfois, la manière dont Dieu nous mène nous semble moins sage que la nôtre, moins raisonnable, moins efficace. Alors on choisit, et puis on se retrouve dans des impasses qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voire quelques années. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire, Seigneur, tu restaures mon âme et je veux te laisser me conduire dans les sentiers de la justice. Le peuple d'Israël, il est dit qu'il a été mené par la nuée et chaque jour par la lumière d'un feu, le jour et la nuit. La nuit et le jour, la lumière d'un feu la nuit. La volonté de Dieu de nous mener par la main n'est pas quelque chose d'alternatif, d'épisodique. Dieu, Christ, dans notre vie, veut me prendre par la main et me conduire chaque jour. Encore faut-il que je souhaite laisser ma main dans la sienne. Le psaume 78 dit « Il les mène en sûreté, ils n'ont pas à trembler quand la mer recouvre leurs ennemis. » Il me mène en sûreté. C'est-à-dire qu'il y a de la sécurité dans la main de Dieu aujourd'hui pour moi. Mais je préfère marcher tout seul. Je suis un homme, je le reconnais, qui a la faculté de se perdre. Mais ce qui est terrible, et c'est ce que mes collègues ont découvert, c'est que quand je me perds, je m'obstine dans mon erreur. Il y a quelques années, on venait d'acheter un camion tout neuf à Kerdudo. Et puis, il y avait les patientes qui étaient parties du côté de l'étang du Loc. Et ils ont dû faire deux voyages en disant, mais Monsieur Wang To, le directeur, peut peut-être venir nous chercher avec un autre véhicule qui va revenir. Et donc, j'ai pris le nouveau véhicule, un 9 places, tout jaune. Jaune poussin. Et puis on m'a dit, vous allez par telle route, et puis ensuite vous allez là, puis vous tournez à droite, etc. Et moi, comme toujours, j'écoute, et puis j'oublie pas, mais je me trompe. Et là, je suis arrivé dans un chemin, on m'avait dit, c'est vers l'étang du Loc, il vous suffit de tourner, vous arrivez à un parking. Et j'ai pris un chemin, et plus le chemin avançait et descendait, et plus ça se rétrécissait. Au point qu'à un moment donné, j'avais des haies, des genêts le long des...
Mais j'ai continué. Mais oui. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé face à un autre chemin où je ne pouvais plus tourner. Et comme ça montait, enfin ça descendait, je ne pouvais plus reculer non plus. J'ai une faculté à m'obstiner dans mes erreurs et à me perdre. Vous savez quoi ? J'espère que ce n'est pas votre cas spirituellement. S'obstiner jusqu'à ce qu'on soit dans l'impasse. Et là, j'étais coincé, je ne pouvais même plus ouvrir les portes du chauffeur, rien. Donc, je suis sorti en escaladant les fauteuils par la porte arrière, tout. Et puis, je suis allé remonter jusqu'à la ferme qui était en haut. Et puis là, j'ai demandé à un paysan de me tracter avec son tracteur. J'ai demandé de l'aide. Alors ça, je sais faire, ça va. Je sais faire. Est-ce que nous demandons de l'aide à Christ pour qu'il vienne à notre secours quand nous avons refusé, quand nous n'avons pas accepté qu'il nous conduise dans les chemins qui sont les nôtres pour restaurer notre âme? Ou bien est-ce que nous restons bien calés dans nos bottes en nous disant « Non, non, je vais continuer tout seul. » Même alors toi, dit Néhémie, dans ton amour infini, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La nuée qui les menait sur la route pendant le jour ne s'est pas éloignée d'eux, ni la colonne de feu qui éclairait leur chemin pendant la nuit. Et en fait, aujourd'hui, Christ, quand il a quitté cette terre, a dit « Je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous une semaine sur deux, au moins. » Un mois sur deux. Je suis avec vous tous les jours. Est-ce que je peux me laisser mener par Christ? Et l'Esprit Saint est là pour nous dire, voilà, j'ai l'assurance d'un Christ qui veut me mener vers ce qu'il y a de meilleur, vers la restauration de mon âme. J'aurais juste terminé avec ces quelques pensées. L'Apocalypse dit, en parlant de l'agneau qui est sur le trône, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les mènera aux sources d'eau vive. Vous avez soif ce matin? Est-ce que vous avez soif? Oui. Est-ce que vous avez soif de justice? Dans le sens, est-ce que j'ai soif que ce qui est juste pour moi et pour ma vie et que veut contester l'adversaire dans mon existence, est-ce que j'ai soif que l'agneau me mène aux sources d'eau vive dans cette année qui vient? Si nous n'avons pas soif, on ne peut pas faire boire un animal qui n'a pas soif. Et on a parfois des chrétiens qui n'ont pas soif. Ils sont tellement rassasiés par d'autres choses, d'autres sources du monde. Mais est-ce qu'on a soif et faim de justice? Alors la justice, ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas fait de concession à sa justice. Il est juste. Et le péché est inacceptable en sa présence. Et il n'a pas fait de concession, même quand il nous a aimés, contrairement à ce qu'en pensent les théologiens protestants libéraux qui pensent que l'enfer est vide et que tout le monde, en fin de compte, du fait de l'amour de Dieu, sera sauvé. Non ! Non ! Dieu n'a pas fait de concession à sa justice à cause de son amour. Il a tout accompli en Jésus-Christ. Et l'accomplissement de son amour, et le passage de sa justice sur Christ à la croix. Alors, est-ce que j'ai soif d'être mené aux sources vives? Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Christ dans l'évangile de Jean, il vous mènera dans toute la vérité, y compris dans la vérité me concernant. Est-ce que je suis prêt à dire au Saint-Esprit, Seigneur, Esprit Saint, mène-moi dans toute la vérité me concernant. Il y a des choses que je conteste ou que je crois comme établies me concernant et où je ne souhaite pas de changement. Mais est-ce que tu peux? Est-ce que tu as cette puissance en moi? Est-ce que je te laisse l'autorité pour me mener dans toute la vérité? Et que ton Saint-Esprit me dise ce qui doit être changé en moi pour que mon âme soit restaurée. Alléluia.
J'aimerais vous laisser avec cette pensée en disant simplement que pour vivre cette restauration de l'âme, il s'agit d'ouvrir la porte. J'avais beaucoup aimé le texte que Laura avait mis il y a quelques années sur, au moment de Pâques, en parlant de la pierre qui roulait et en faisant parler la pierre. Lorsque Christ se présente au tombeau, au tombeau de Lazare, il dit « enlevez cette pierre afin que s'accomplisse l'œuvre de vie ». Est-ce que nous pouvons prier dans nos vies le Saint-Esprit d'enlever toutes les pierres qui sont devant la mort qui règne en nous, les besoins de restauration? Est-ce que vous pensez que Lazare avait besoin d'être restauré? Est-ce que vous avez un doute sur le fait que Lazare avait besoin d'être restauré? Il était mort, enterré. Ça, c'est une expression française. Mort et enterré, c'est-à-dire, c'est terminé. Et pourtant, Jésus dit, ouvrez, enlevez cette pierre. Et puis vous avez Marthe qui dit, mais Seigneur, si tu l'ouvres, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il sent déjà. Le Seigneur dit quand même, enlevez la pierre, afin que ma puissance de vie s'accomplisse. Vous savez, si nous faisons cette demande à Dieu, en disant, accomplis ton œuvre de restauration. Il va falloir faire rouler quelques pierres où des parties de nous-mêmes sont enterrées et ont besoin d'être restaurées, tout comme Lazare. Et vous savez, on peut hésiter à faire rouler la pierre parce que ça ne sent pas bon. Il y a des parties de notre vie qui ne sentent pas bon. Alors on préfère laisser les pierres devant. Et puis Dieu dit non, faites rouler la pierre afin que ma vie s'accomplisse, afin que mon œuvre de restauration s'accomplisse. Jésus se moque que Lazare sente déjà. Il veut entrer là où cela ne sent pas bon. C'est ça, Christ est prêt à rentrer dans notre vie là où ça ne sent pas bon. Parce que nous sommes prêts à ouvrir ce qui est verrouillé, à laisser guérir ce qui est malade. Je me tiens à la porte. Qu'avons-nous à risquer en ouvrant? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et son nom est Emmanuel. Dieu avec nous. C'est là son nom. C'est là ce qu'il veut faire dans nos existences et nos vies, maintenant. Seigneur, que ton nom soit véritablement accepté, reçu et vécu par chacun d'entre nous. Merci pour cette parole, cette volonté flagrante que tu as en tant que Dieu, depuis toute éternité, de vouloir restaurer nos âmes, guérir, faire ouvrir tous les tombeaux qui peuvent contenir des choses qui sont mortes dans nos vies, pour les rendre vivantes et glorieuses, à cause de ton nom, parce que tu es celui qui est, parce que tu es Dieu avec nous, parce que tu es celui qui sauve. Alors Seigneur, nous osons te prier, envoie ton esprit pour que cette œuvre de restauration s'accomplisse dans nos existences. Amen.